Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il s'appelle Omar, il est médecin, il a 29 ans, il est chrétien et il vient de Mossoul en Irak. Il est arrivé en France le 1er octobre 2014 avec son père, ses deux tantes, son frère, l'une de ses sœurs et sa femme. Tous les sept habitent maintenant dans une maison en pleine campagne, dans la Sarthe, mise à disposition par une amie française d'Omar. Comme Omar ne trouve pas de travail dans la Sarthe, depuis le mois de mars, il vient chaque semaine tenter sa chance à Paris. C'est ici que nous l'avons rencontré. Avant la première guerre du Golfe, en 1990, l'Irak comptait 1 200 000 chrétiens. En 25 ans, près de 800 000 d'entre eux ont fui pour se réfugier dans des pays limitrophes. Ils ne sont désormais plus que 400 000, environ 145 000 à Bagdad, 5 000 à Bassora, 250 000 dans la région autonome du Kurdistan. À partir de 2003, le chaos instauré par la guerre en Irak est hélas propice aux exactions commises contre les chrétiens. Plusieurs églises sont attaquées, de nombreux chrétiens tués. Un attentat contre la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, revendiquée par la branche irakienne d'Al-Qaïda, fait 46 morts le 31 octobre 2010. L'arrivée de Daesh, l'État islamique, en 2014, accélère à ce point les persécutions que le 27 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a exhorté l'ONU de prendre des mesures conséquentes pour protéger les chrétiens d'Orient. Entre l'invasion américaine de 2003 et l'arrivée de Daesh à l'été 2014, près de 1300 d'entre eux ont été tués dans des attentats ou des meurtres ciblés, notamment à Bagdad, Mossoul, Bassora et Kirkouk, d'après des informations relayées par le quotidien La Croix. Dans la ville d'Omar, jusqu'au 10 juin 2014, date de la prise de Mossoul par l'État islamique, vivaient 35 000 chrétiens. En dehors des invalides, des malades ou des personnes trop âgées pour partir, tous ont fui. Il n'y a aujourd'hui pratiquement plus de chrétiens à Mossoul, comme le raconte Omar, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, au micro de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Notre famille vient de Mossoul. Ça fait 4 siècles qu'on est là. C'est vraiment l'histoire de mon grand-père, mes arrière-grands-pères. On était tous là, à Mossoul. La famille est vraiment était très très bien que nous là-bas pour le métier de la médecine. Vous voyez, mon grand-père lui-même, il était un des premiers médecins dans la ville. Son frère, il était médecin aussi, l'un des premiers chirurgiens cardiaques en Irak. Donc ça a créé une certaine réputation pour la famille. Donc pour nous les enfants, c'était un très bon milieu. Notre maison, pour moi, c'était un petit paradis. C'était la grande maison de mon grand-père. Une maison de 650 mètres carrés dans un quartier qui est au cœur de rive droite de Mossoul. On a même une petite piscine, de grands jardins, des arbres partout. Il y avait souvent mon grand-père, moi, ma soeur, mes parents. Et ça dépend parce qu'on a plusieurs maisons à Mossoul. Donc pour regarder les autres maisons, on était parfois obligé, moi, de rester à la maison de mon grand-père ou d'aller dormir dans l'autre maison. À cause de la crise économique au temps de Saddam Hussein, il y a eu pas mal de voleurs partout. Donc on était obligé de faire ça. Après la chute du régime de Saddam Hussein, de 2003, quand les Américains ont envahi l'Irak, les minorités en Irak étaient protégées par le régime. Mais après la guerre, ça est devenu insupportable. On a commencé à considérer les chrétiens comme des Américains. Tout simplement parce qu'on pense qu'ils ont la même religion comme l'armée qui a envahi l'Irak. Et c'est à cause de ça qu'on était ciblé autant qu'une famille chrétienne qui n'a pas de protection. C'était en 2007, un jeudi soir, j'étais en train de me coucher. Vers 10h du soir, la téléphone sonne. Donc ça m'arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois que ma soeur, il est en train de dire wa alaykoum salam. Et je lui demande, mais c'est qui? Et apparemment, le monsieur, il a dit, donnez-moi l'homme de la maison. Il ne parle pas aux femmes. Il me passe le téléphone. Et là, il me dit, vous êtes telle famille, telle maison. Oui. Je m'appelle Abou Abdallah. Je suis le leader d'un groupe djihadiste. Et le groupe, on a 30 soldats qui sont blessés. Il faut $3,000 pour transférer chacun en Syrie pour le faire soigner. Donc, vous devez me dire combien de l'argent avez-vous pour payer. Moi, j'ai fait le calcul. 30 multiplié par 3,000, ça fait $90,000. Moi, j'aime bien faire quelque chose, mais vraiment, on est 4 orphelins. On vient juste de perdre notre mère et on n'a pas assez d'argent. C'est... Et lui, il a dit, écoutez-moi, on connaît très bien que vous êtes une famille chrétienne. On connaît que vous n'avez pas de milice, la personne qui va vous protéger. Nous, quand vous payez, vous serez protégés par notre groupe. Il m'a même parlé de tel voisin, telle maison. Il m'a dit qu'ils ont tous payé. Donc si vous voulez, moi je vous donne même les numéros de téléphone, appelez-les pour vérifier. Ok? Et si vous ne payez pas, il a arrêté de parler. Je lui ai dit, mais vraiment, on n'a rien. Il a dit, vous vous débrouillez, vous appelez les autres membres de la famille. Et moi, après, demain, je vais prier dans la mosquée qui est juste à côté de votre maison. Et après les prières, vous devez me dire combien vous allez payer. $90,000. C'est presque €80,000. C'est impossible de payer. Et même si moi, j'appelle les autres membres de la famille, c'était le jeudi soir. Et le monsieur, il a volé l'argent le vendredi après les prières. Et le vendredi en Irak, c'est un jour férié, c'est congé. C'est comme le dimanche en France. Donc il n'y a pas de banque, il n'y a rien du tout. Même si j'ai de l'argent, comment je vais aller à la banque pour la retirer? Impossible, tout simplement. Je ne savais pas quoi faire. Pour vous dire la vérité, ça m'a fait trembler. Parce que moi, quand je vois que ma voisine à moi était menacée parce qu'elle est chrétienne, mon cousin était assassiné à Bagdad parce qu'il était chrétien, on ne lui a même pas demandé de l'argent. S'il va venir ce soir à la maison, comment je vais faire? Directement, j'ai appelé mon père, il était dans notre maison. Papa, on a reçu la menace. Et lui, il était calme. Il m'a dit, calme-toi. Ok, prépare tes affaires. Tu quittes demain matin. On a préparé les affaires, plutôt des vêtements et des livres de médecine. J'ai pas pensé à l'essentiel. J'ai pas pensé, par exemple, aux albums de photos de la famille. On a eu 9 albums à la maison. Mariage de mes parents, ma naissance, baptême. C'est vraiment des choses qu'on ne peut pas récupérer. Je n'ai pas pensé aux trucs qui ont de valeur historique. Des livres en araméen qui datent du 17e, 18e siècle. Je n'ai pas pensé à ça. Le lendemain, on a quitté la maison à 5h30 du mat. Avec ma soeur, on est allé à Erbil, au Kurdistan. Et c'était la dernière fois que je suis allé dans la maison de mon enfance. On est arrivé à Erbil vers 7h30. J'ai eu un téléphone, un contact d'un ancien voisin kurde qui a quitté Mossoul parce qu'il a senti que la situation était mauvaise. On appelle, vous êtes où? On est dans tel quartier. On est allé, on leur a raconté l'histoire et l'ont dit, bah, bienvenue. C'était une petite maison de 100 mètres carrés. Il nous a tout simplement ouvert sa maison et vraiment il nous a traités comme ses enfants, avec sa femme et ses trois filles. Et cette famille était une famille musulmane kurde. On a passé exactement 5 semaines là-bas. Le temps de trouver un autre hébergement, parce que là, chez lui, c'était vraiment compliqué. Et au bout de 5 semaines, on est allé à Ankara, c'est le quartier chrétien à Erbil. On a frappé la porte d'un membre de la famille qu'on n'a jamais connu. Très grande famille, donc il était déjà 10 personnes. Il a tout simplement mis des matelas sur terre dans le salon. On a commencé à apprendre la langue parce que là-bas, les gens ne parlent pas l'arabe. Ils parlent le kurde. On a contacté l'université médicale d'Erbil et le président de l'université, il nous a dit « Cette année, je pense que ce sera mieux si vous vous installez bien à Erbil et que vous continuez l'an prochain. » Moi, je lui ai dit, mais docteur, on vient vraiment juste de perdre notre maison. Et moi, je n'ai pas envie de perdre un an de mon parcours à la faculté de médecine. Il m'a dit, mais c'est impossible, nous avons déjà commencé les épreuves et tout. Je lui ai dit, je prends mes chances. Et là, il m'a dit, ok, je vous accepte en tant qu'étudiant invité. Et là, c'était vraiment mon premier moment de joie à Erbil. Je me suis dit, ok, au moins, on va continuer nos études. Et cette année, au moins, j'ai réussi toutes mes épreuves. Et ma sœur, en fait, elle était la première dans sa classe.
Omar reste 7 ans à Erbil, de 2007 à 2014. Transculture, les pieds sur terre.
Le 10 juin 2014. Le matin, mon père il m'appelle vers 9h30, 10h de mat. Allô, fiston, comment ça va? On va tous bien, ne t'en fais pas, il y a aucun problème. Ok, là je vais travailler, on s'appelle plus tard. Je suis allé au travail, je rentre le soir, vers 22h. Il me rappelle pour dire... Mossoul a tombé dans les mains de l'État islamique, l'armée irakienne s'est retirée. En fait, j'entends le son des balles. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? L'État islamique, ils sont dans le quartier, ils tirent des balles comme ça dans l'air, comme un signe de victoire. Et on voit les drapeaux noirs. C'est le drapeau porté par tous les djihadistes du monde. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer, j'ai pensé que je ne vais pas le voir. Et donc, on a passé 7 heures sur le téléphone, ensemble, on s'appelait tous les 5-10 minutes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez fait. Et le 17 juillet, dans les mosquées, après les prières de vendredi, les imams de la ville ils ont commencé à lire l'ultimatum. Le calife des musulmans, Ibrahim, il a voulu donner les chrétiens une chance pour choisir entre soit se convertir en islam, être tranquille, soit payer le jizya, l'impôt pour l'État islamique, soit quitter, mais si vous quittiez, vous ne prenez rien du tout. Que vos vêtements. Et si vous choisissez de rester en Mossoul, vous risquez d'être décapité. Donc l'ultimatum, en fait, il n'a pas donné le vrai choix de payer l'impôt d'État islamique. Car, quand même, c'était évident, tous les chrétiens ils vont partir. Pourquoi prendre le jizya? On va prendre tout. Maintenant, les chrétiens, ils ont jusqu'à samedi matin. Donc c'était 24 heures, quoi. pour quitter le Mossoul, mais ils ont le droit d'avoir rien sur eux, sauf les vêtements. Mon père était choqué. Pendant 12 jours, il a ramassé tous les documents, toutes les affaires, toutes les, vraiment des choses qui ont de la valeur. Il a préparé un petit pick-up pour venir au Kurdistan. Mon père, quand ils ont essayé de passer le checkpoint, on demande la carte d'identité, on tourne. En fait, quand on tourne la carte, on voit religion, chrétienne, religion, musulmane. Vous êtes chrétien, descendez-vous. Il a ouvert, il a vidé pour voir s'il y a de l'or qui est caché, qu'il y a quelque chose qui est caché. Ok, allez-y. Et il n'a rien gardé. Qu'une chemise très très sale et un pantalon qui était déchiré. Et c'est tout. Il a trouvé un taxi après le checkpoint. La route entre Erbil et Mossoul, c'est 1 heure. Au lieu de passer 1 heure sur la route, il passe 18 heures pour aller à Erbil, pour venir chez nous. Il y a au moins 500 000 de personnes qui ont quitté Mossoul ce jour-là, des chrétiens et des musulmans. En 2014, là, on a réalisé qu'au Mossoul, c'est fini. Point. Donc, ils ont mis la lettre Noun, N, sur les portes des chrétiens. Et c'est la première lettre de mot Nasrani pour décrire les chrétiens. Le moment où ils sont arrivés dans nos quartiers à nous, ils ont demandé aux gens où habitent les chrétiens. Bah, ça, c'est la maison à Monsieur Machin, il est chrétien. Ça, c'est la maison à Madame Machin, elle est chrétienne. Donc, on met la lettre Noun sur les portes et on écrit propriété de l'État islamique. Et mon père, en fait, il était à Erbil avec moi dans la chambre et du coup, il reçoit un appel téléphonique. C'était nos voisins à nous, de Mossoul. Il dit Salam alaikum, oui, comment ça va? Et moi, j'étais en face de lui. Et je vois comment il a arrêté de sourire, il est devenu un peu pâle et un peu choqué. Il a dit oui, oui, non. Ok, il a accroché. Et là, il m'a dit que c'était un djihadiste de l'État islamique qui a demandé à notre voisin d'appeler mon père pour lui poser 3 questions. Est-ce que la maison, il est à vous? Oui. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous voulez revenir chez vous et se convertir en islam? Non. Ok. Le juge islamique, il a décidé de confisquer vos biens. Au revoir. Et 2 heures plus tard, mon père il rappelle le voisin pour lui demander mais qu'est-ce qui se passait? Il a dit, bah, je suis désolé. Je me demandais, la maison juste à côté, c'est à qui? Et moi, j'ai tout appelé. Il met la lettre Noun sur votre porte. Ils ont tout pris. Mais tout. Ils ont laissé la porte ouverte. Comme ça, les autres, ils peuvent tout simplement venir et habiter, l'utiliser comme ils veulent. Comme c'était à personne. Entre juillet et août, Daesh, ils ont commencé à avancer vers Kurdistan. On a tous pensé que les Peshmerga, des rebelles kurdes, ils sont vraiment forts pour protéger le Kurdistan et pour arrêter Daesh. Que les Peshmerga étaient une vraie barrière. Mais Daesh, ils ont avancé vers la plaine de Ninive, ils ont contrôlé vraiment tous les villages chrétiens. Les Peshmerga, ils se sont retirés comme l'armée irakienne. Et les chrétiens, ils ont fui leur village comme les chrétiens à Mossoul. Et donc, c'était vers le 10 août peut-être. Je me lève le matin, je prends mon thé et je vais au travail. Le matin, le parc était vide encore. Et quand je rentre le soir, Mais là, je remarque qu'il y a des gens partout dans les routes d'Ankawa. C'était presque 50 000 personnes qui se sont réfugiées à Ankawa et qui s'assoient dans les jardins. Je vois que l'église est vraiment devenue un camp de réfugiés. Il y a pas mal de bébés qui ont de la fièvre, qui sont malades partout. Il faisait très très chaud, 50 degrés sous le soleil. Là, c'était vraiment là où j'ai réalisé, mais c'est une catastrophe humaine. Ce jour-là, j'ai commencé à me mettre dans le service vraiment des réfugiés. Nous étions une équipe de deux médecins. Nous avons commencé à demander de l'aide aux gens. Un monsieur m'a donné 100 dollars, l'autre m'a donné 200 dollars, un autre nous a donné 1000 dollars. Le soir, on est allé au bazar pour acheter des médicaments. Petit à petit, on a reçu vraiment de l'aide et on a commencé à installer les tentes. On a créé 12 centres médicaux. On était seul, pas entraîné, pour faire de la médecine de crise. Et moi, je me suis personnellement occupé d'un couple 75-72 ans. Et la femme était très très mignonne. Elle m'a dit, tu vois docteur, c'est vraiment à cause de lui qu'on est resté là-bas. On a dû quitter avec les autres. Elle parle de son mari. Mais vous voyez, il m'a montré un Kleenex dans la main. Il l'ouvre et dans le Kleenex, il a mis sa bague de mariage. J'ai pu sauver ma bague de mariage. Après la grande exode des chrétiens, les djihadistes de l'État islamique, ils étaient à deux pas d'Arbil, à dizaines de minutes. Ils ont attaqué sans relâche. Moi, j'ai senti que même Arbil, il va tomber aux mains des djihadistes. Les Peshmerga, ils manquent d'armement. Moi, j'ai eu peur. Il n'y a plus d'espoir. L'État islamique, ils ont fait avancer les canons de l'armée irakienne, qui était à Mossoul à l'époque, vers le Kurdistan. Il était prêt de bombarder la ville. En fait, ce jour-là, une dizaine d'amis m'ont appelé pour dire qu'ils ont acheté des pistolets et tout. Et je lui ai dit, mais c'est les djihadistes, ils vont prendre Erbil, ben, un pistolet, ça sert à quoi? Le lendemain, quand je me suis réveillé, mon père me dit, mais les Américains, ils ont frappé les canons de l'État islamique à côté d'Erbil. David est sauvé. C'était un moment de joie. Et en même temps, un de mes amis français, il m'a contacté pour dire, Omar, je vois dans la presse que M. Laurent Fabius, il a annoncé que la France est prête pour accueillir les chrétiens et les minorités irakiennes. Si vous avez besoin d'une famille garante, on le sera avec un grand plaisir. J'étais tellement heureux que vraiment que j'ai commencé à pleurer. On a acheté les billets. J'ai contacté le consulat pour leur dire qu'on a une famille garante. Et dans un délai de moins de 24 heures, on était en France. Je suis arrivé à Charles de Gaulle avec ma famille. J'ai commencé à respirer. Et c'était aussi un sentiment très étrange parce que je savais qu'on doit vraiment laisser toute notre histoire derrière nous. Je suis arrivé il y a presque une semaine à Paris et j'ai pas les moyens pour payer un loyer. Je suis hébergé. Le monsieur, il m'a donné sa chambre à lui. Il a trois enfants, deux fils et une fille. Et la fille est partie aux États-Unis pour faire un stage d'un an. Et lui, il a pris la petite chambre à sa fille. Donc c'est vraiment, c'est un bon samaritain. Je suis un jeune médecin. J'étais diplômé en 2010. J'ai pratiqué pendant 4 ans. Et aujourd'hui en France, c'est tellement difficile de s'intégrer dans le système de la santé. J'ai essayé de postuler partout, mais il n'y avait pas de réponse. Donc je me suis dit, aller dans la région parisienne, peut-être ça va débloquer au moins un stage non rémunéré. Et c'est comme ça que peut-être je vais commencer ma carrière en France.
شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك انا ادري اسمر غيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك انا ادري اسمر غيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك اهدى حبيبي ارتاح كافي اسى وجراح اهدى حبيبي ارتاح كافي اسى وجراح ليلة صفا وسما شفتك وهمي راح اهدى حبيبي ارتاح كافي اسى وجراح ليلة صفا وسما شفتك وهمي راح وما احيا من دونك شلونك حبيبي شلونك ما احيا من دونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك والله ادري اسمر بغيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'histoire d'Omar, chrétien d'Irak, un reportage de Valérie Borst réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Omar, à Frédéric Tissot, à Guillaume Batin. L'attaché de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Vos commentaires, vos réactions, on les attend toujours avec impatience sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à la page et au compte Facebook, ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de notre chaîne, bien entendu.